Mal.
Arrivant par Birch Street, Hodges remonte le sentier qui traverse la friche et trouve Pete assis au bord du ruisseau, les genoux remontés contre la poitrine. Près de lui, un arbre rabougri penche au-dessus de l'eau réduite à un mince filet après un long été caniculaire. Sous l'arbre, le trou où était enterrée la malle a été de nouveau excavé. La malle elle-même est posée en travers de la berge. Elle a un air vieux, fatigué et quelque peu menaçant. Une voyageuse temporelle venue d'une époque où le disco était encore à la mode. Un tripode de photographe est posé non loin de là. Il y a aussi deux sacs qui ressemblent à de l'équipement de pro.
« La fameuse malle », dit Hodges en s'asseyant à côté de Pete.
Pete hoche la tête.
« Ouais, la fameuse malle. Le photographe et son assistant sont partis déjeuner, mais je crois qu'ils vont pas tarder à revenir. Ils avaient pas l'air emballés par nos restaurants en ville. Ils viennent de New York. »
Il hausse les épaules, comme si ça expliquait tout.
Au début, le gars voulait me faire asseoir dessus, avec le menton dans la main. Vous savez, comme la statue célèbre. J'ai réussi à l'en dissuader, mais ça a pas été facile.
C'est pour le journal local.
Pete secoue la tête, un sourire naissant sur ses lèvres.
Non, monsieur Hodges. C'est ça ma bonne nouvelle. C'est pour le New Yorker. Ils veulent publier un article sur ce qui s'est passé. Et pas un petit. C'est pour les pages centrales, les pages chaudes, comme ils disent. Un vraiment grand article. Peut-être le plus grand qu'ils aient jamais publié.
C'est formidable.
Ouais, si je le foire pas.
Hodges scrute un instant son visage.
Attends une seconde. C'est toi qui vas l'écrire ?
Ouais. D'abord, ils voulaient envoyer un de leurs journalistes, George Packer, c'est un bon, pour m'interviewer et écrire l'histoire. C'est un gros coup pour eux parce que John Rothstein était une de leurs stars à l'époque, de la même trempe que John Updike, Shirley Jackson. Enfin, vous voyez qui je veux dire.
Hodges ne voit pas, mais il fait oui de la tête.
Rothstein était comme qui dirait la référence en son temps pour les ados dépressifs, et ensuite pour la classe moyenne dépressive. Un peu comme John Cheever. Je suis en train de lire Cheever. Vous connaissez sa nouvelle, Le Nageur ?
Hodges secoue la tête.
Vous devriez la lire. Elle est épatante. Bon, en tout cas, ils veulent l'histoire des carnets. Toute l'histoire, du début à la fin. Ça, c'est depuis qu'ils ont fait travailler 3 ou 4 graphologues sur les photocopies que j'avais faites et sur les fragments.
Hodges est au courant pour les fragments. Il restait assez de papier roussi dans les restes carbonisés du sous-sol pour valider l'affirmation de Pete selon laquelle les carnets perdus étaient véritablement l'œuvre de Rothstein. L'enquête de police retraçant l'histoire de Maurice Bellamy avait achevé de corroborer les dires du garçon, dont Hodges n'avait jamais douté un seul instant.
« T'as pas voulu de Packer, j'imagine. »«
J'ai voulu de personne. Si quelqu'un doit écrire cette histoire, c'est moi. Pas juste parce que je l'ai vécu, mais parce que lire John Rothstein a changé ma... »
Il s'interrompt et secoue la tête.
Non, j'allais dire que son œuvre a changé ma vie, mais c'est faux. Je ne crois pas qu'un ado ait déjà une vie à changer. J'ai juste eu 18 ans le mois dernier. Je crois que ce que je veux dire, c'est que son œuvre a changé mon cœur.
Hodges sourit.
Je comprends ça.
L'éditeur en charge de l'article m'a sorti que j'étais trop jeune. Ça vaut mieux que de dire que j'ai pas de talent, hein. Alors je lui ai envoyé quelques-uns de mes écrits. Ça a aidé. Et aussi, je lui ai tenu tête. Ça n'a pas été trop difficile. Négocier avec un mec d'un magazine new-yorkais, c'était pas la mer à boire. Après m'être coltiné Bellamy, ça c'était de la négociation.
Pete hausse les épaules.
Ils le corrigeront comme ils voudront, bien sûr. J'ai assez lu pour savoir comment ça se passe, et je l'accepte. Mais s'ils veulent le publier, ce sera avec mon nom sur mon histoire, et pas autrement.
Une position dure, Pete.
Pete regarde fixement la malle, et l'espace d'un instant, il fait beaucoup plus que ses 18 ans.
On vit dans un monde dur. Je l'ai découvert quand mon père s'est fait écraser au City Center.
Aucune réponse ne semble appropriée. Alors Hodges se tait.
Vous pigez ce qu'ils veulent, surtout au New Yorker ?
Hodges n'a pas été inspecteur de police pendant quasiment 30 ans pour rien.
Un résumé des deux derniers romans, je suppose. Jimmy Gold, sa sœur et tous ses copains. Qui a fait quoi, qui, quand et comment, et comment tout finit par s'arranger à la fin.
Ouais, et je suis le seul à savoir tout ça. Ce qui m'amène au chapitre excuse.
Il considère Hodges gravement. Pete, tu n'as besoin de faire aucune excuse. Aucune charge n'a été retenue contre toi. Et moi, je n'ai absolument rien à te reprocher. Holly et Jérôme non plus, d'ailleurs. On est juste contents que ta mère et ta sœur s'en soient bien sorties.
Elles s'en sont sorties de justesse. Si je ne vous avais pas envoyé balader ce jour-là dans votre voiture, et si je ne vous avais pas filé entre les doigts en passant par la pharmacie, je parie que Bellamy ne serait jamais venu chez nous. Tina fait encore des cauchemars.
Elle t'en veut pour ça?
En fait, non.
Ben voilà, dit Hodges. T'avais le couteau sous la gorge, au propre comme au figuré. À l'idée, t'avais terrorisé, et tu n'avais aucun moyen de savoir qu'il était mort ce jour-là quand t'es retourné à sa librairie. Quant à Bellamy, tu ne savais même pas qu'il était encore en vie, et encore moins qu'il était sorti de prison.
Tout ça, c'est vrai, mais c'est pas juste parce que Hallyday m'avait menacé que j'ai refusé de vous parler. Je pensais avoir encore une chance de garder les carnets, vous voyez. C'est pour ça que j'ai pas voulu vous parler, et que je me suis enfui. Je voulais les garder. C'était pas là, en gros plan dans ma tête, mais c'était en arrière-plan, c'est sûr. Ces carnets, eh ben... Et ça, je dois le dire dans l'article que je suis en train d'écrire pour le New Yorker. Ils m'ont ensorcelé. J'ai besoin de faire des excuses parce qu'en réalité, je ne suis pas tellement différent de Maurice Bellamy.
Hodges prend Pete par les épaules et le regarde au fond des yeux. Si c'était vrai, tu ne serais jamais allé au centre aéré pour les brûler.
J'ai pas fait exprès de lâcher le briquet, dit doucement Pete. Le coup de feu m'a fait sursauter. Je pense que je l'aurais fait de toute façon s'il avait tiré sur Tina, mais j'en serais jamais sûr à 100%.
Moi, j'en suis sûr, dit Hodges. À 200%.
Ouais?
Ouais. Alors dis-moi, combien il te paye pour ça?
$15,000.
Hodges commente d'un sifflement.
À acceptation. Mais ils vont l'accepter, c'est sûr. Monsieur Ricker m'aide, et ça vient plutôt bien. J'en ai déjà écrit la moitié, le premier jet. Je suis pas doué pour la fiction, mais ça, ça me va. Je pourrais peut-être en faire mon métier plus tard.
Qu'est-ce que tu comptes faire de l'argent? Le placer pour financer tes études à l'université?
Pete secoue la tête. L'université, j'irai d'une façon ou d'une autre. Je m'en fais pas pour ça. Non, l'argent, c'est pour payer Chapel Ridge. Tina y entre cette année. Vous pouvez pas savoir comme elle est excitée.
C'est bien, dit Hodges. C'est vraiment bien.
Il reste un petit moment assis en silence, les yeux fixés sur la malle. On entend des bruits de pas sur le sentier et des voix d'hommes. Les deux types qui surgissent portent quasiment la même chemise à carreaux et le même jean neuf encore marqué des plis de la boutique. Ils doivent croire que tout le monde s'habille comme ça dans l'intérieur des terres, se doute Hodges. L'un a un appareil photo autour du cou. L'autre transporte un projecteur additionnel.
Vous avez bien mangé ?
Leur lance Pete alors qu'ils traversent le ruisseau en se dandinant de pierre en pierre.
Super bien, dit l'homme à l'appareil photo. Chez Denise, les galettes de pommes de terre étaient un rêve culinaire à elle toute seule. Ramène-toi, Pete. On va commencer par une série de toi à genoux devant la malle. Je veux aussi faire une série où tu regarderas dans la malle. Mais elle est vide,
objecte Pete. Le type se tapote le front du bout du doigt.
Les gens imagineront. Ils se diront, qu'est-ce que ça a dû être quand il a ouvert cette malle pour la première fois et qu'il a vu tous ses trésors littéraires? Tu piges?
Pete se lève, essuie le fond de son jean déjà délavé et à l'aspect bien plus naturel.
Vous voulez rester pour la prise de vue, monsieur Hodges? C'est pas tous les jours qu'un jeune de 18 ans a droit à un portrait en double page dans le New Yorker à côté d'un article écrit de sa main?
J'adorerais, Pete. Mais j'ai une course à faire.
Ok. Merci d'être venu et de m'avoir écouté.
Tu voudras bien rajouter une seule chose à ton histoire.
Quoi?
Qu'elle n'a pas commencé avec ta découverte de la malle.
Hodges considère l'objet, noir et raflé. Une relique au couvercle moisi et aux charnières rouillées.
Elle a commencé avec l'homme qui l'a placé là. Et quand tu auras envie de te reprocher la façon dont les choses ont tourné, tu feras bien de te souvenir de la phrase que Jimmy Gold dit toujours. Cette connerie, c'est des conneries.
Pete rigole et lui tend la main. « Vous êtes un chic type, monsieur Hodges. »
Hodges la lui serre. « Tu peux m'appeler Bill. Je te laisse maintenant. Va sourire pour la photo. »
Il s'arrête de l'autre côté du ruisseau pour jeter un coup d'œil en arrière. Suivant les instructions du photographe, Pete s'est agenouillé, une main posée sur le couvercle râpé de la malle. C'est la pose classique de revendication de propriété. Elle rappelle à Hodges une photo qu'il a vue un jour, d'Ernest Hemingway, agenouillé à côté d'un lion qu'il venait de tuer. Mais le visage de Pete est totalement dénué de cette assurance souriante, imbécile, complaisante, qu'arborait Hemingway. Le visage de Pete dit « J'ai jamais été propriétaire de ça. » « Oublie jamais ça, petit, » pense Hodges en reprenant le chemin de sa voiture. « Oublie jamais ça. »